Allez, on marche encore une petite heure.
Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, zou.
Voyager en famille, mais pas comme de simples touristes. Voyager en famille pour s'immerger totalement dans le quotidien des gens que l'on rencontre. Des gens dont le mode de vie fait rêver ou intrigue. Tel est le programme de la famille Soufflard. Ils sont cinq, la mère, Verdine, le père, Thierry, et les trois enfants, Robinson, 12 ans, Rocco, 9 ans, et Aël, 7 ans. Sur la porte de leur caravane, un message en lettres rouges donne le ton. Tu crois qu'on est du genre à dormir dans les palaces hôtels ? Ensemble, armés de leurs plus beaux sourires et d'une bonne dose de culot, ils sont allés toquer à la porte de caravanes de cirque, de roulottes, de gitans, de cabanes de bergers, de familles amish, de vieux loups de mer ou encore de transsexuels australiens. Ils ont souvent été accueillis à bras ouverts et vécu des rencontres inoubliables. Ces aventures singulières dans lesquelles peu de familles se seraient lancées, Thierry Soufflard, le papa, les raconte dans un livre qui vient de paraître aux éditions Artaud, intitulé « Insolent voyageur, l'art de se faire inviter partout dans le monde avec sa tribu ». Et nous allons avoir un petit aperçu de leurs aventures, car toute la tribu Soufflard, au grand complet, passe par notre bivouac. Cette fois-ci, ils n'ont pas eu besoin de s'inviter, c'est nous qui leur avons demandé de venir. En fin d'émission, comme tous les lundis, nous retrouverons nos explorateurs des cuisines du monde, Marine Mandrila et Louis Martin, qui nous raconteront les découvertes qu'ils ont faites au Cap-Vert. Voilà pour le menu de la deuxième partie de notre bivouac.
Je m'appelle Rocco, notre famille est Soufflard et je travaille beaucoup. Je voyage beaucoup.
D'accord. Et vous avez voyagé où ?
En Bretagne.
Et en
Espagne. En Amazonie.
En Italie.
En quoi ? En Australie, en Ostanie, je me souviens plus quoi, en Patagonie, et plein d'autres choses.
La voix de Rocco, interviewé par son frère Robinson, qui a un peu changé de voix depuis. Hein. Tu as 12 ans aujourd'hui, Robinson.
Oui, tout à fait.
Sois le bienvenu. Tu aurais quelque chose à rajouter sur la façon dont tu as présenté la famille Soufflard, ton petit frère Rocco ?
Non, même si aujourd'hui on a un petit peu plus grandi.
Oui, voilà. Je le constate. Il fait la même taille que moi. c'est assez déprimant. À 12 ans, il fait déjà 1m75, Robinson. Thierry Soufflard, on enchaînait avec cette musique de la Strada, un célèbre film italien, parce que c'est devenu une de vos passions avec vos enfants. Parmi les nombreuses destinations que vous avez faites, vous avez choisi le cirque, et pas n'importe quel cirque, les cirques italiens. Pour quelles raisons ?
On avait envie de s'inspirer de Federico Fellini et donc on avait aussi envie de partir à Noël parce que le Natale, là-bas il y a une tradition qui consiste à aller au cirque à Noël. Donc on a pris notre caravane, donc sur laquelle il y a écrit effectivement sur la porte « Tu crois qu'on est du genre à descendre dans les palaces hôtels ?» Et puis on est arrivé de nuit, d'ailleurs, dans le premier cirque, c'était à Turin, sous la neige. Et on a débarqué comme ça. Et j'ai le souvenir d'avoir Rocco et Robinson de chaque côté de la main. Et avec une rallonge électrique orange. Et j'ai le souvenir, précis. En fait, de demander l'hospitalité, tout simplement, dans un cirque avec les enfants. Il faisait froid en leur disant juste, voilà, on a... est-ce que vous auriez de quoi brancher la prise de courant pour avoir du chauffage et de la lumière et de vivre au cœur de votre village et puis on a eu l'agréable surprise en fait que ça marchait, donc au total on a été adopté par 13 familles qui au final, quand on vivait un mois avec eux, par exemple, finissaient par appeler leurs copains directeurs de cirque ailleurs. Et moi, je parle pas du tout. D'ailleurs, je parle pas du tout italien. C'est et ça. C'était un peu le but du jeu aussi de rajouter des A, des O, des I. Et oui, au final, Je crois que c'est Nando Orfei qui a joué avec Federico Fellini. Donc, c'était à Naples. Voilà, il a appelé ses copains pour qu'on soit hébergé à Bari. Et puis, ainsi de suite. Voilà, ça s'est fait tout naturellement.
C'est ça, hein, Verdine, vous avez choisi les cirques italiens alors que dans la famille, personne ne parle italien. Vous facilitez pas les choses pour ensuite réussir à vous inviter parce qu'il faut quand même y aller un peu au culot.
Non, on aime bien ça en fait. On est en effet culotté et on aime les vrais défis en fait, là où on n'attend pas une famille.
Ouais.
Et en fait, je crois que comme on aime ça, bah, ça fonctionne bien en fait.
Ouais, mais c'était un rêve de gosse, hein. Vous adorez les cirques. D'ailleurs, Rocco, qui est en face de moi et qui me regarde avec des yeux interrogateurs, il doit son prénom à un numéro de cirque que vous aviez particulièrement apprécié, je crois.
C'est ça, il y a vraiment ça. Et en fait, c'est tombé au moment où moi, je lisais un livre dont le héros s'appelait Rocco. Et donc, il y avait aussi un vrai personnage de cirque, Rocco. Ouais. Donc voilà, Rocco le clown. Donc c'était pour nous voilà, le vrai bon moment de se dire, voilà, si tous les deux, on a ce prénom en tête, c'est qu'il faut le donner, en fait.
Et Rocco, alors, je sais pas si tu vas me confirmer ça ou pas, mais tes parents, dans le livre, te présentent justement comme le clown de la famille, celui qui fait rire les uns et les autres. Est-ce que ça te va comme définition?
Oui.
Oui. Sans plus. Oui, un clown un peu intimidé pour le moment peut-être, mais tu nous en raconteras de tes histoires. Le cirque pour toi, vu que vous y allez régulièrement, le cirque c'est un endroit où tu aimes être, Rocco?
Oui. Bah oui, j'adore parce que il y a plusieurs numéros plus ou moins marrants, mais
ouais.
C'est bien quand même.
T'en as appris certains de ces numéros?
Bah les clowns, oui, parce que quand on vivait dans les cirques, on connaissait à quelle heure étaient les représentations et tout. Donc vous pouvez connaître les blagues des clowns par cœur et tout, parce qu'on les voyait deux, trois fois
oui.
À chaque fois.
C'est ça à force, hein, Thierry, vous connaissiez par cœur le tour des cirques. Il y a même une scène... Allez-y.
Allez-y.
Dans votre livre, il y a une scène que j'ai trouvée, et d'ailleurs, vous en êtes presque flatté. À un moment, vous passez, je crois, dans un supermarché, et un vigile voit passer votre famille et dit « Ah, mais les gens du cirque, vous êtes toujours de bonne humeur et riant. » Vous étiez considéré par la ville comme faisant partie intégrante de cette troupe de cirque qui s'était installée.
Ouais, du coup, on était bien fiers. non, et d'ailleurs, c'était assez rigolo aussi... un repas de Noël dans une roulotte d'acrobates argentins. L'acrobate qui nous dit « Je vous envie vraiment votre famille parce que vous êtes toujours sur la route. » Et là, c'était vraiment l'arroseur arrosé parce que nous, on a fait toute cette démarche-là pour justement aller à la rencontre de ceux qui étaient sur la route. Et bon, en sachant qu'elle nous expliquait que nous, c'était tous les univers qu'on a traversé, le grand écart d'univers, alors qu'un cirque, c'est vrai, passe de ville en ville, de pays. C'est assez immuable comme décor, bon, même si les spectacles changent chaque année. Il reste quand même dans le même univers.
Quoi. Ouais. Robinson, toi, tu as eu l'occasion de nourrir les tigres. Je ne sais pas non plus lequel de la famille épluchait les légumes pour les girafes. Enfin, vous faites des trucs un peu incroyables dans ces cirques.
Bah oui. C'est sûr que éplucher des légumes pour une girafe ou plusieurs
girafes. Ça mange
girafes,
quoi ? Ça mange quoi une girafe alors ?
Bah, c'est végétarien, donc que des légumes.
D'accord.
Mais des légumes épluchés.
Ouais. Malheureusement, il faut les éplucher. Et en plus, c'est vrai que ça a une odeur très tenace,
oui.
ces girafes.
Donc quand on dort à côté, c'est...
Ouais. Après, ça reste. Hein. Ça reste.
Surtout dans les cheveux. Ouais.
Ouais. Ouais. Lequel avait les cheveux qui sentaient la girafe?
Bah, comme ils ont à peu près tous les cheveux longs, c'est vrai que c'est une odeur assez âcre.
Ouais,
et on a toujours l'impression d'ailleurs que c'est les fauves qui se sentent très très fort, mais une girafe, voilà... une odeur très 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 tenace. Quoi.
Alors évidemment, dans ces cirques, ils se sont fait maquiller, ils ont appris des numéros, ils ont nourri les animaux, tout ça dans une ambiance pas croyable. Et c'est vrai que souvent, dans votre famille, on a l'impression que ça se déplace avec une ambiance assez mouvementée, assez joyeuse. On écoute ça. Alors là, changement de décor. Cette fois-ci, on n'est plus en Italie, on est en Espagne. Et vous n'êtes pas les seuls à bord de cette voiture. Avec qui vous êtes, Thierry Soufflard, dans cette voiture?
Avec Pilar Alonso, qu'on a découvert en fait. Elle, Elle nous a hébergés et fait rencontrer tout plein le milieu flamenco. En fait, on était partis, on ne connaissait personne. Notre idée, c'était de découvrir et d'être immergé dans le milieu flamenco. Donc, on s'est dit, une bonne façon, en fait, comme entrée en matière, c'est comme fil conducteur, c'est la corde de la guitare, et qui dit corde dit luthier. Donc, on est allé à Granada dans un vieux quartier où il y a pas mal de luthiers de belles guitares flamenco, et on a fait la rencontre notamment de Pilar Alonso, qui, elle, nous a fait découvrir vraiment toutes les personnes qu'il fallait découvrir dans le milieu du flamenco. Donc, on était parti au départ avec juste notre envie. Et puis, au final, en rentrant, tout le monde nous a dit « Ah oui, vous avez rencontré la Moneta, vous avez rencontré... » Enfin, voilà, c'est tout plein de personnes qu'il fallait rencontrer sur place.
Verdine, on a vu le cirque, le flamenco, maintenant, en fait, à chaque fois, c'est un univers que vous avez envie d'infiltrer, mais vraiment, vous voulez vivre leur quotidien.
Oui, c'est vraiment l'idée, en fait, parce que c'est le voyage en famille, en fait. Donc, l'idée de départ, c'est vraiment, certes, l'école, ils apprennent plein de choses à l'école classique, et nous on veut leur montrer d'autres cultures en fait. Ouais. Donc on se dit que pour rencontrer d'autres cultures, rien de tel pour les enfants que de s'immerger dedans. Ouais. En fait.
Et parfois ça fait du bruit d'aller à la rencontre des autres. Verdine, vous vous êtes retrouvés, alors ça, moi ça en jette, hein, j'aimerais pouvoir en dire autant, vous vous êtes retrouvés voisins de caravane avec les Gypsy Kings dans vos aventures. Racontez ça.
Exactement, alors là où ça en jette encore plus, c'est que, parce que dans cette idée, dès qu'on vit un peu avec les gens, dès qu'on les rencontre, etc., il y a aussi, on partage forcément le quotidien. Et donc, qui dit le quotidien quand on est un Gypsy King, on a besoin d'avoir des beaux ongles.
Oui.
Et donc, quand on a un problème d'ongles, eh ben, on vient voir qui ? On vient voir Verdine pour se dire, c'est elle, puisque forcément je suis la seule femme. Vous avez bien compris que j'étais entourée de quatre hommes.
Ah oui,
donc c'est pas tous les jours facile. Et donc il y a aussi cette, on vient aussi me voir pour des choses, se disant elle doit bien avoir une lime à ongles. Et en fait ils sont venus me voir pour que je leur lime les ongles parce que eux ils avaient un problème avec leurs ongles. Donc
d'accord.
Voilà. Donc c'est des choses comme ça qui arrivent, qui ça sont pas du tout prévues et qui sont, enfin du coup c'est super intéressant à vivre. C'est des excellents souvenirs aussi et c'est dans ce partage aussi de quotidien que tout se fait, en fait.
Ils sont pas trop bruyants comme voisins, les Gypsy Kings, Thierry?
C'est un peu pour ça qu'on est venu quand même.
Mais on a été, pas s'en plaindre, en plus.
On a été très, très agréablement surpris parce qu'au départ, leur répertoire, c'est de la rumba assez classique et parfois un peu grossière. Et ce qui nous a fait plaisir, c'est... Donc c'était juste avant un concert, par exemple, lors de leur répétition à laquelle on assistait, ils se sont dit, les trois premiers morceaux ont fait vraiment notre répertoire classique, ce que le public attend, mais on s'amuse après, on fait notre répertoire traditionnel flamenco, et comme on venait de revenir justement, c'est du flamenco pur. Et donc voilà, c'est... pour répondre à la question, non, ils ne sont pas si bruyants que ça, justement, un peu plus fins que...
Ouais. Et en plus, comme les enfants sont rois pour les Gypsy Kings, tous les matins, Robinson, je crois qu'il vous apportait des croissants au réveil.
Bah oui, c'était très agréable que les Gypsy Kings nous apportent des croissants.
Mais quand tu racontes un truc pareil à tes copains, remarque, je ne sais pas si les Gypsy Kings, ça parle beaucoup aux jeunes
trop,
de 12 ans.
Non.
Donc en fait, tu ne fais pas du tout d'effet avec cette histoire.
Si, parce qu'il y a quand même... Les Gypsy Kings, c'est quand même... Ils ont fait certaines musiques que vraiment beaucoup, beaucoup de monde connaissent.
Oui, donc quand même, ça permet de raconter des sacrées histoires. Rencontre avec les Amish, avec des bergers de haute montagne ou encore un vieux loup de mer, la famille Soufflard, les parents Verdine et Thierry et les enfants Robinson, Rocco et Aël nous emmènent dans leurs aventures le temps d'un bivouac sur France Inter.
There was music with drums and everything. And then these cats came through. They called themselves BCUC. They came with a brand new style and a brand new swag from the woods, y'all. Attack, 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 attack. Attack, 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 attack.
kosobukwe notetu huru afta uti nikotuge mari gabi matara makoko piko sobukwe notetu huru afta uti nikotuge mari gabi matara makoko piko sobukwe notetu huru afta uti nikotuge mari gabi matara makoko piko sobukwe notetu huru afta uti nikotuge
rechiwe ho ba mona ubi
C'était BCUC qui chantait Yindé sur France Inter dans le temps d'un bivouac.
Bonjour, nous allons vous parler en direct des Amish. Alors voilà, chez les Amish, l'école est un petit peu différente. Pourtant, on est en Amérique. Voilà, le gouverneur a décidé qu'il ne fallait pas avoir d'électricité. Et alors, les écoliers roulent en trottinette quand ils rentrent chez eux. Alors par rapport à nous, nous c'est les voitures, eux c'est les trottinettes. Et aussi, voilà, ils veulent pas utiliser beaucoup d'électricité chez les
Amish.
Alors chez les Amish, il y a beaucoup d'enfants, il y a des ateliers qui construisent. Surtout, ils ont beaucoup de chevaux.
Beaucoup de moutons.
On recommence.
Non.
Parce que là, vraiment, Rocco, il dit beaucoup de moutons. Il y avait zéro mouton là-bas.
Bon, bah alors on va tirer cette histoire au clair. Est-ce qu'il y avait des moutons chez les Amish, oui ou non ? Robinson, qui a une voix un peu plus grave, mais c'est toi qu'on entendait alors, dans cette exposé sur les Amish. Mais voilà.
Eh bien, de mémoire, je ne pense... je ne pense pas avoir vu de moutons, mais peut-être qu'il y en avait, j'étais petit peu petit.
C'est Rocco qui les a imaginés, alors ces moutons chez les Amish. Thierry Soufflard, vous publiez Insolent voyageur, l'art de se faire inviter partout dans le monde avec sa tribu, c'est aux éditions Artaud. Et dans votre livre, eh bien, vous racontez comment, avec Verdine, ici présente, votre femme, et les trois enfants qui sont autour de la table, Robinson, Rocco et Aël, qui s'étirent et qui baillent, qui commencent à trouver le temps long autour de cette table. Ça va, Aël ? C'est vrai qu'on n'a pas encore entendu ta voix. Ça va ?
Oui.
Bon, voilà. Là, tout ce dont on parle, tu t'en souviens pas vraiment. Toi, t'étais vraiment tout petit au moment de où ça a eu lieu. Oui. Mais maintenant, ta famille te le raconte ?
Ouais.
Ouais. Thierry ?
Oui.
C'est vrai qu'ils vous les avaient fait voyager très très jeunes, vos enfants. Aujourd'hui, ils n'en ont pas forcément beaucoup de souvenirs pour certains. Voyage, je parle.
Oui, c'est vrai que leurs grands-parents, pour voir à elles, par exemple, devaient consulter les tableaux d'affichage des aéroports. Parce que c'est vrai que parfois, ça, on avait un peu du mal.
Ouais.
Donc oui, les Amish, c'est un de nos plus beaux voyages. Parce qu'on a, l'idée, nous, c'est vraiment de se faire inviter chez ceux qui nous attirent ou qui nous inspirent, qui nous intriguent.
Là,
aussi.
C'était plus, j'imagine, intrigué.
Voilà, c'est ça. Oui, on avait envie de rencontrer cette communauté qui refuse un peu le progrès et on est rentré un petit peu via les Mennonites qui vivent un petit peu sur le même territoire et on est surtout rentré en contact à travers les écoles où lors d'une récréation, en fait, je suis allé voir la maîtresse et je lui ai expliqué notre parcours et est-ce qu'on a la possibilité en fait de rentrer et puis d'expliquer. Et au final, après, lorsqu'on demandait à être hébergé, les mamans nous disaient non, mais je vous connais puisque nos enfants ont parlé de vous puisque vous avez expliqué dans leur classe. Donc c'était beaucoup plus facile après pour se faire accueillir.
Donc c'était en Pennsylvanie. Que vous avez rencontré ces Amish, et c'est effectivement par l'école que vous avez réussi à infiltrer. C'est aussi une phrase clé, vous leur avez dit, on ne vient pas au zoo, on vient avec un regard documentaire, on a envie de comprendre comment vous vivez.
Oui.
Ils vous ont ouvert leurs portes. Déjà, ça c'était une réussite parce que c'est une communauté assez fermée, qui n'a pas forcément envie de recevoir de la visite. Donc vous avez réussi avec vos enfants et votre femme Verdine, vous vous êtes retrouvés le temps, je ne sais pas, de quelques heures, institutrice devant la classe des Amish qui sont habités. Alors, je me permets de faire la réflexion parce que dans votre livre, vous le dites, c'est un peu, vous avez l'impression d'être propulsé dans la petite maison dans la prairie. Hein,
oui, avec... c'est totalement ça, oui.
Donc, il faut imaginer Verdine en train de faire la classe dans la petite maison dans la prairie. Qu'est-ce que vous leur avez raconté?
Alors en fait, l'idée, c'était de leur expliquer où était la France, pour commencer. Et puis, on était beaucoup sur ça, et d'expliquer, parce que en fait, l'école chez les Amish, c'est une école unique. Donc en fait, tous les âges sont dans la même classe, en fait. Donc déjà, ça, c'est aussi hyper intéressant par rapport à nos propres enfants, de leur montrer un autre système éducatif. Et donc après, c'était avec... ils ont des vieilles cartes, en fait, comme on a pu avoir lors de notre enfance. Donc, et vraiment de montrer où était la France et d'expliquer qui on était, ce qu'on avait fait, quel était notre parcours, pourquoi on faisait ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment impressionné... Alors, je le faisais avec j'avais un enfant en écharpe à ce moment-là. Ouais. Donc, j'avais un enfant en écharpe...
qui était à elle. Hein,
exactement. Et du coup, et ils n'ont pas du tout l'habitude, déjà, de voir... donc, ça allait... Alors que moi, je pensais que toutes les femmes amiches, du coup, portaient leur enfant en écharpe. Pas du tout. Aucune. Le porte en écharpe.
Bah surtout pas l'institutrice, puisque l'institutrice, elle doit être célibataire.
Forcément. Alors ça, c'est sûr.
Donc là, vous n'étiez pas dans les codes.
J'étais pas du tout dans les codes. Donc, et après, en fait, là, ce qui était très intéressant, c'est l'ouverture d'esprit, en fait, de tous ces enfants. En posant des questions, alors que moi, je me suis dit, en nous expliquant qu'ils n'avaient jamais l'habitude que quelqu'un d'extérieur à l'institutrice, qui fait partie du coup de la communauté, qui est donc une toute jeune fille, n'intervient à l'école. Donc déjà, ils nous ont permis ça. Enfin, parce qu'au départ, on pensait juste regarder comment se passait une séance, et pas du tout. En fait, je suis vraiment intervenue, vraiment comme si je faisais une intervention vraiment sur un temps donné, quoi. Mmh. Donc ça, c'était hyper intéressant, ouais. Et avec des questions, du coup, de où est vous allez, qu'est-ce que vous faites, oui. Pourquoi vous faites ça.
Vous leur avez quand même raconté des histoires de voyage en avion, eux qui voyagent en roulotte et en trottinette, comme nous l'expliquait Robinson.
Exactement.
tout à l'heure.
Non,
ils ont fait preuve d'ouverture par rapport à
mais
tout ça.
Mais pour tout, c'était vraiment ça en fait, l'image qu'on peut avoir de se dire, ils n'ont aucune, on pourrait se dire, ils vivent que tellement en monde fermé qu'ils n'ont aucune connaissance de l'extérieur. Oui. Pas du tout.
Thierry Soufflard, ça a changé, vous, votre regard? Déjà, il y a cette image, me dit, ça doit être un peu un choc anachronique de se retrouver sur les bancs d'une école qui ressemble certainement à une école que vous avez peut-être connue par le passé, avec vos propres enfants.
Je ne suis pas si vieux que ça.
Oui, pardon. En tout cas, avec les vieilles cartes de France dessinées. Ouais. Moi, elles étaient à mon époque. Oui, vous n'allez pas me dire que vous ne les aviez pas. Et avec, à côté de vous, vos enfants. Ouais. Et puis, en plus, votre femme qui fait la classe, ça devait être un petit peu compliqué de...
Oui, l'impression d'être propulsé dans un épisode de La Petite Maison dans la Prairie, avec le poêle à bois à l'arrière qui chauffe la partie droite de mon visage, et de voir Verdine expliquer avec l'aide. Enfin, voilà, c'était une drôle de sensation, et puis aussi l'impression d'être dans les photographies de Robert Doisneau, on vit dans un monde presque en noir et blanc, très monochrome, quoi.
Ouais. Est-ce que ça a quand même changé? Parce que ça, c'est l'image qu'on se fait de la communauté Amish. Est-ce que quand même, en y allant, vous vous êtes rendu compte que ça n'était pas si cliché que ça?
C'est-à-dire que tout le monde pense que déjà, ils n'utilisent pas l'électricité. Or, dans leur maison, ils n'utilisent pas l'électricité, mais ils ont souvent des ateliers à côté où ils travaillent le bois. Ouais. Donc là, l'activité professionnelle, l'électricité est autorisée.
Ouais. Avec du matériel après, dernier cri, hein, vous dites.
Avec du matériel dernier cri, oui. Ouais. Oui, c'est un peu des businessmen quand même. Et on voit également l'apparition de panneaux solaires sur les toits, etc. Mais c'est sûr que ça fait réfléchir aussi sur la green life, nous, effectivement, on saute d'un avion à l'autre, et rentrer dans une classe comme ça, en leur expliquant tous nos voyages du Japon à la Patagonie, à l'Australie, etc. Bon, parfois, je regardais leur regard et ça pouvait paraître un peu... qui sont ces extraterrestres qui débarquent comme ça dans leur classe. Bon, voilà. Donc on essaie justement de pas être en mode zoo, puis de leur expliquer.
Avec aussi, mais vous le racontez dans votre livre, mais à un moment vous apercevez un téléphone portable dans un coin de poche, donc ils ne sont pas si déconnectés au sens propre du terme.
C'est-à-dire que les jeunes ont la possibilité à 16 ans de faire une année, en fait, où ils ont la possibilité d'aller vivre dans l'autre monde.
Ouais.
Et donc, ils goûtent à l'alcool, au sexe, etc. Et il y a beaucoup de voitures également qui leur refourguent aux autres jeunes après, qui sont cachés dans des granges. Et là, il y avait, quand j'ai demandé, j'avais envie d'envoyer des photographies dans une étable que je faisais d'un jeune qui s'appelle Paul. Et donc, quand j'ai noté un peu, je voulais noter l'adresse où envoyer ses photos, et il a mis ses doigts dans sa poche pour sortir son téléphone portable, et j'ai vite vu, voilà, une ouais. façon peut-être de nous dire aussi, regarde, je suis un peu comme vous aussi, mm-hmm. moi, voilà, il y a, c'est sûr qu'avec les écrans et les téléphones dernier cri, c'est de plus en plus difficile pour les jeunes de rester dans cette culture. Mais la culture est tellement forte pour eux que très très souvent, ils restent et la pression est tellement forte qu'ils restent.
Voilà. Allez, on quitte les Amish parce que je crois que vous teniez aussi à ce que l'on parle des bergers de haute montagne. Alors là, c'est changement de décor. Hein. On arrive dans les Hautes-Alpes. Et là aussi, vous avez fait de très belles rencontres, notamment une bergère dénommée Marie, qui a séduit toute la famille, hein, Verdine. Vraiment, Marie, elle rayonne, elle en impose, elle vous a plu, cette Marie.
Ouais, alors déjà, physiquement, juste physiquement, elle est purement magnifique.
Ouais.
Et en plus, elle a un charisme incroyable. Et donc, c'est une nana quand même seule avec tout son troupeau de bergers. C'est hyper impressionnant. Et en plus, accueillant cinq personnes comme nous, c'était en plus aussi impressionnant.
Ouais. Vous l'aviez prévenue où elle vous a vu arriver et elle vous a accueilli, Marie?
Non, là on l'avait prévenue en ouais. fait, donc mais on se connaissait pas en fait. C'était du bouche à oreille en fait par rapport à des personnes qui connaissaient des bergers, et donc on nous avait dit bah oui voilà, moi je veux bien que du coup cette famille vienne dans ma cabane.
Et
voilà.
Vous allez justement dormir dans cette petite cabane de 4 mètres carrés qui a l'air très très froide la nuit, mais c'est là aussi où c'est la beauté de la famille nombreuse, c'est-à-dire que là, voilà, comme vous le dites, Thierry Soufflard, dans votre livre, la chaudière familiale fonctionne à plein, on se couvre, on se recroqueville les uns sur les autres, et vous avez passé une très belle nuit.
C'est ça, bah, on en a passé plusieurs pour le coup,
ouais.
Et oui, donc certes, il faisait vraiment pas chaud, alors qu'on était à peu près aux alentours, on était mi-août à peu près, mais comme on était en haute altitude, du coup, il commençait à neiger à certains moments, et du coup, il faisait vraiment pas chaud, et donc en fait, voilà, il n'y avait pas la place, elle, là où elle dormait, elle avait juste son lit, il y avait une toute petite cabane à côté, là où elle met ses animaux, en fait, le chien, quand vraiment il fait trop froid, et où elle stockait, en fait, juste la nourriture, en fait.
Ouais.
Donc du coup, voilà, on a tout enlevé là, et on était, il y avait de quoi juste nous mettre nous cinq par terre, à même le sol. Et en effet, ça réchauffe bien.
Et elle semble d'une extrême bienveillance. Elle part très très tôt pour aller s'occuper de ses moutons dans la montagne, mais elle vous laisse des petits mots, des petits déjeuners, tout fait. Visiblement, vraiment, vous êtes très bien reçu. Vous, en échange, vous leur apportez quoi, Thierry Soufflard, aux gens que vous rencontrez?
Sans doute un petit peu de choses, parce que souvent ils nous on garde vraiment des liens forts et ils nous réinvitent alors de manière très pratique, je fais beaucoup de photographies, donc je leur envoie beaucoup d'images et ils sont très demandeurs d'ailleurs, et y compris d'ailleurs pour les Amish au départ, on nous a dit n'y allez pas, ils aiment pas être pris en photo, et au final c'est eux qui nous demandaient. Donc là, pour les bergers, il y a des magnifiques photos à faire avec eux dans leur activité.
Et pour les,
puis,
pour
et puis
les
on
bergers,
partage beaucoup de nourriture. Oui,
pour les bergers, vous avez aussi joué les entremetteurs. Vous n'avez pas fait que prendre des photos avec cette Marie. Finalement, vous êtes intervenu de façon très concrète dans le restant du cours de sa vie. Racontez.
Ouais, c'est-à-dire qu'on a joué vraiment les pigeons voyageurs au sens strict du terme. Puisqu'on a joué les entremetteurs, on venait de vivre juste avant avec Timothée un bel âtre, et il se trouve que lors d'un repas avec Marie, elle, quand on lui a dit ça, elle nous dit mais je le connais plus que ça, Timothée, donc elle l'a essuyé
un autre
râteau,
berger, qui est un autre berger,
qui est un autre berger, hein, d'une autre vallée, oui. Et donc elle venait de s'essuyer un râteau auprès de lui. Et avant de se quitter avec Marie, elle nous a remis une enveloppe avec une lettre, et elle savait qu'on allait le revoir, donc on lui a remis cette lettre. On a joué le rôle de pigeon voyageur, puisque aujourd'hui ils sont Ils ont réuni les troupeaux et ils ont deux enfants. Voilà.
Vous avez fait parvenir l'épître au beau pâtre. Écrivez-vous, ça m'a beaucoup plu. C'était la réponse de la bergère au berger. Allez, on continue nos aventures. Nos aventures avec la famille Soufflard. Dans un instant, le temps d'un bivouac sur France Inter. C'était Fishback qui chantait Feu, le temps d'un bivouac sur France Inter.
On pensait dès que le bateau il va jouer. Non, il va pas jouer, échouer. Parce que si le bateau il se cogne à l'autre, et ben ça casse. Alors après ça échoue.
Et t'es où là, Robinson, en ce moment?
Dans un bateau.
Mais t'es où, dans quelle ville?
À Brisbane.
En Australie.
Avec la petite voix de Haël qui nous annonce que nous sommes en Australie. Et Rocco qui s'inquiète que le bateau choue. C'est vrai que voyager avec des enfants, il y a toujours cette fraîcheur. D'ailleurs, vous les notez dans votre livre, ouais. Thierry Soufflard, Insolent voyageur, paru chez Artaud. Vous notez ces petites phrases, notamment chez les bergers. Vous dites qu'à un moment, Rocco, avant de s'endormir dans vos bras, s'étonne que la lune se mette à bouger quand on marche.
Oui, il disait, pourquoi papa, quand on marche, ça fait bouger la lune?
Ouais. Et là, on était à bord d'un bateau, des bateaux, vous en avez pris pour aller jusqu'en Australie, notamment. Mais il vous est aussi arrivé de rencontrer des vieux loups de mer. C'est une très belle rencontre que vous avez faite, alors là, pas très loin, finalement, en Bretagne, avec un peintre navigateur, Yvan Lecor. Et alors lui, c'était un peu... un rêve pour vous de le rencontrer, ce monsieur, raconté, Thierry.
Oui, c'était mon artiste préféré et ça fait partie justement de notre démarche, c'est de s'inviter chez les gens qu'on aime aussi, et nos artistes, ceux qui nous inspirent, et Yvan Lecor en faisait partie. Donc je lui ai envoyé une lettre tout simplement là, et en leur expliquant qui on était et ce qu'on faisait, et il était très très curieux de nous rencontrer, donc voilà. Et le premier soir, quand on nous a accueillis, je me suis endormi dans son lit, puisqu'il nous a prêté son lit pour lui, il est allé dormir ailleurs. Donc c'est assez C'est vrai que c'est assez surprenant de s'endormir dans le lit de son artiste préféré. C'est ça. Sans qu'il soit là.
C'est tout, évidemment. Ça peut être aussi sympa. Pour moi, c'est une autre histoire. Mais c'est toute l'originalité de cette démarche. C'est-à-dire que vous y allez avec un certain culot. Voilà, vous envoyez une lettre. Même eux vous disent, quand vous les rencontrez, au début, lui et sa femme ont cru à une blague.
Oui, c'est ça.
Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette... On va dire oui, on verra bien ce qui se passe. Ouais. Et vous débarquez tous les cinq chez eux. Et vous avez passé une semaine formidable. Parce qu'il vous a accueilli une semaine, Verdine, chez lui.
C'est vraiment ça. Et c'est vraiment le principe à chaque fois, en fait, où on se dit, on tente, les gens ne savent pas forcément. Et là, avec lui, ce qui a été super, c'est qu'en fait, il a vraiment montré double activité aux enfants, en fait. Ouais. Donc, d'une part, ce qu'il fait au niveau de ses livres par rapport à l'impression, et d'autre part, la navigation.
Ouais. Alors, pour l'impression, justement, comme des fois, vous filmez, vous enregistrez des petits bouts, on en a quelques bribes de ce qui s'est passé. Donc, échange entre Yvon Lecor et Robinson, Rocco et Aël autour de la fameuse presse dans l'atelier d'impression d'Yvon Lecor.
Oui, il faut mettre le tapis.
Attends, je mets le papier d'abord. Hein ? Si je ne mets pas le papier, c'est le tapis qui va être imprimé. Et alors, pour le nettoyer, celui-là, ça s'appelle comment les tapis, là ? Des...
rouleaux.
Non. Oh, bah alors, c'est bien la peine que j'explique tout, hein ? Des, comme dans les lits de bébé, des langes.
Des langes.
On appelait ça langes et les petits.
Des langes.
N'est-ce pas, maman?
C'est vrai, c'est vrai.
Bon, à vous, monsieur Rocco. Ah, il sait dans quel sens, hein? Il a une grande expérience depuis hier. Tu vois, et le plateau, il s'en va doucement là-bas. Il va passer entre les deux cylindres. Et le papier ramolli par l'eau va aspirer l'encre avec une pression de 800 kg assouplie par ces trois langes qui vont permettre au papier d'aller à la rencontre des entailles du cuivre et d'aller chercher l'encre.
Qu'est-ce qui raconte bien Yvon Lecor, son métier, ce qui se passe avec sa presse? Et je vois, quand on écoute ces quelques mots, je vois le visage de Rocco qui s'illumine avec un grand sourire. Ça, tu t'en souviens? C'est toi qui activais cette grosse presse pour imprimer. C'est un bon souvenir?
Oui, très bon.
Ouais. T'avais déjà assisté à ça? Tu savais comment on imprimait?
Non. Vu que on est allé, en fait, c'est une ancienne imprimante pour imprimer les livres.
Ouais.
Et vu que on est allé à l'imprimerie d'Insolent Voyageur, et ben ça change parce que tout est, on voit l'ancienne.
Ah oui.
Et la nouvelle, donc ça, tout est automatisé dans la nouvelle, alors qu'il faut tourner les roues pour l'ancienne et tout.
Alors qu'est-ce qui est le plus rigolo? Celle où on tourne les roues ou celle où tout s'imprime tout seul finalement?
Moi, je préfère celle où on tourne les roues, mais au bout d'un moment, ça doit être énervant quand même.
Oui, c'est ça. Ça va bien 5 minutes, l'ancien temps, mais c'est vrai que la modernité, je suis d'accord avec toi. Yvon Lecor, c'est une jolie rencontre pour vous. Il vous signe une très belle dédicace, il va vous offrir un livre, et il signe une très belle dédicace à votre adresse, Thierry Soufflard, à l'homme aux semelles de vent, au regard d'aigle, à la curiosité magnifique qui emmène sa tribu à la recherche d'une humanité positive, amicale. Yvon Lecor. Vous l'avez conquis, ce monsieur, Thierry Soufflard?
Peut-être, c'est pas à moi de répondre, mais...
En tout cas, lui vous a conquis.
Voilà, c'est ça, oui. Et puis, mais ainsi que tous ceux qu'on a pu rencontrer, comme Bernard Tirsio, un romancier belge, ou les Lojo, chez qui on est allé vivre également. Quoi.
Verdine, une question certainement que se posent nos auditeurs. C'est bien beau, ils vont chez les Amish, à l'école, mais quand est-ce qu'ils vont vraiment à l'école, à la vraie, celle qui parfois est un petit peu barbante, les enfants?
Alors, ils y vont vraiment quand même.
Oui. Alors, comment vous arrivez à concilier ça? Le voyage, toutes ces aventures, parce qu'on voit, elles sont nombreuses et sur des temps assez longs, et l'école?
Donc en fait, ils sont scolarisés et quand ils ne sont pas scolarisés, du coup, on utilise les vacances scolaires et on prend toujours, on prend plus que les vacances scolaires. Donc on évite de les déscolariser trop longtemps et quand ils sont déscolarisés un certain moment, du coup, on prend le relais en tant que parent en fait. Ça fonctionne très bien avec l'éducation nationale, du coup, et c'est des petites écoles, donc ça, les instits sont vraiment adorables avec nous parce que du coup, ils échangent beaucoup avec les enfants après.
Robinson, toi, ça t'a posé parfois des problèmes dans ta scolarité. Je rappelle que tu as 12 ans, donc tu as un peu cette expérience de voyageur maintenant à l'épreuve de l'école. Est-ce que ça s'est toujours bien passé? Est-ce que tes instits et aujourd'hui tes professeurs au collège voient toujours ça d'un bon œil, ces allers-retours?
Alors, mes instits, quand j'étais en primaire, voyaient toujours ça très bien. Maintenant, au collège, on y va beaucoup moins vraiment pendant l'école, mais ils voient aussi vraiment bien.
Ouais. Et tes copains, ils aiment bien que tu leur racontes tes voyages ou ils sont jaloux ou ils s'intéressent pas?
Non, jamais. Ils sont vraiment assez contents de... Je ne sais pas comment expliquer, que je leur raconte un voyage ou un pays. Voilà.
D'accord. Donc, ils sont curieux de connaître tes aventures.
C'était le mot que je cherchais.
Eh ben voilà, on l'a trouvé, on l'a trouvé ensemble. Des galères, il y en a eu, Thierry Soufflard. Bon, on arrive un peu à la fin de l'interview, donc, mais quand même, c'est vrai qu'on se dit, ils sont allés partout, ils ont été accueillis à bras ouverts. Est-ce que c'est vous qui avez volontairement omis de nous raconter les fois où vous vous êtes pris des vents, très clairement, où vous avez été frappé aux portes et où finalement on vous a dit, non, on vous accueille pas?
Non, on s'est pas pris de vent parce que on cible quand même les personnes, je pense que qui ça ressemble aussi. On a et très franchement, il y a pas eu de. Je pense qu'on a frappé aux bonnes portes.
Oui, en fait. Oui, c'est vrai. Oui. Visiblement, vous avez fait que des belles rencontres.
Oui, oui.
Il y a une fois dans le livre où vous avez eu peur, sans qu'il se passe rien de grave, mais vous vous êtes fait une frayeur. C'était au Japon, mais c'était pas un Japonais, c'était un Américain qui vous accueillait.
Là... c'est pour ça qu'avoir peur déjà au Japon, c'est assez surprenant. Non, c'était dans les faubourgs de Nagoya et on était hébergés et. Je pense que c'est nous qui nous sommes fait un mauvais trip.
Ouais. En fait, tel que vous le décrivez, on comprend que vous ayez quelques inquiétudes. On a vraiment l'impression que vous avez atterri chez un psychopathe, quand même.
Oui, je pense aussi.
Mais bon, ça s'est bien passé, ça s'est bien terminé. Vous avez quand même que passé une nuit et vous avez rebroussé chemin. Oui. On laissera les lecteurs découvrir ce qui vous est arrivé dans cette drôle d'appartement un peu sordide au Japon. Verdine, c'est quoi le prochain projet, le prochain monde, milieu, univers à infiltrer avec vos enfants et votre mari?
Alors pour l'instant, en fait, ce qu'on fait, c'est en cours, c'est vraiment la tournée des micros. Parce que là, pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire forcément en famille. Donc déjà ça, c'est un voyage en soi. Et après, il y a plein d'autres univers qui nous intéressent. Tout ce qui est autour des... Alors là, pour le coup, c'est plus de nature. Mais tout ce qui est... toutes les personnes qui travaillent par rapport au volcan. Parce que ça, c'est des choses les enfants ont pu nous renvoyer. Parce qu'on est beaucoup par rapport à eux, en fait. D'essayer de trouver aussi des choses ludiques, des choses qui les intéressent, etc. Donc voilà, comme là, c'est eux qui ont pu nous renvoyer. Envoyer ça. Donc voilà, ce sera peut-être autour de...
Maintenant, ils sont de plus en plus, c'est eux qui proposent.
Exactement.
Évidemment, plus ils sont grands et plus ils vont avoir leur mot à dire dans les destinations et les gens à rencontrer. Merci Thierry, Verdine, Robinson, Rocco et Aël Soufflard. On peut découvrir vos aventures dans ce livre « Insolent voyageur, l'art de se faire inviter partout dans le monde avec sa tribu ». C'est aux éditions Artaud. Merci à vous.
C'est nous qui vous remercions.
Dans un instant, on part se régaler dans les cuisines du Cap-Vert en compagnie de nos explorateurs Marine Mandrila et Louis Martin. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac.
Aux amis, aujourd'hui. Demain, il sera trop tard.
C'était Jacques Higelin, la balade de chez Tao, et la programmation musicale est signée Djoubaka dans le temps d'un bivouac. Et puis Thierry Soufflard, notre invité, me montrait son portable. La bergère dont nous avons parlé, Marie, nous écoute dans ses Hautes-Alpes. Alors on la salue, Marie, qui nous dit « En gardant les brebis, j'écoute toujours Inter. » Merci, c'est très gentil votre interview. Eh bien merci à vous, Marie, de nous écouter.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça va?
Soupe,
Et on retrouve Marine Mandrila et Louis Martin, nos explorateurs des cuisines du monde. Aujourd'hui, ils nous emmènent à la soupe au Cap-Vert. Alors pourquoi vous avez choisi de mettre le Cap-Vert sur votre itinéraire de ce deuxième voyage, Louis ?
On avait entendu parler de la légende qui dit que quand Dieu a créé la Terre, il lui restait une poignée de cailloux dans la main qu'il a jeté dans l'océan pour créer le Cap-Vert. Alors forcément, ça nous a intrigués.
Je comprends.
Et on a eu envie d'aller découvrir ce petit archipel de 10 îles volcaniques en plein milieu de l'océan, qui est un peu un carrefour entre le Brésil, le Portugal et l'Afrique, et qui nous intéressait parce qu'il y a un vrai brassage culturel, un métissage entre trois univers à 200 km seulement des côtes du Sénégal.
Et 10 îles qui sont très différentes les unes des autres. Alors vous n'êtes pas allé sur les 10, vous êtes allé sur lesquelles ?
On n'a pas été sur les 10, mais effectivement, toutes les îles sont très différentes en termes d'ambiance et de paysage. Il y a Sal, qui est une île de sable blanc paradisiaque et bien connue des touristes. Il y a Fogo, qui est une île volcanique connue pour ses vignes qui poussent dans le cratère du volcan. L'île principale de Santiago, bien sûr. Et puis il y a Saint-Anton, qui est notre véritable coup de cœur. C'est le paradis des marcheurs. C'est une île qui est remplie de vallées, de cols, de montagnes et au sommet desquelles on trouve des forêts de pins et d'eucalyptus. Beaucoup de sublimes cultures en terrasse, de canne à sucre, d'igname, de haricots. Enfin, c'est vraiment une île où la nature est encore très brute et extrêmement préservée et très peu de tourisme.
Ouais.
Et surtout, ce qui est génial sur cette île, c'est qu'il y a énormément de sentiers de randonnée qui sont jalonnés de part et d'autre, de petites auberges et de tables d'hôtes dans lesquelles on peut s'arrêter, reprendre des forces, rencontrer les gens et découvrir la cuisine populaire hyper accessible.
Et à Saint-Anton, vous avez rencontré Isabella qui tient une table d'hôtes à Forminigas, le long du littoral.
Igname.
Banane.
Senora.
Carotte. Et un fruit typique d'ici.
Fruit à pain.
Ça sent tellement bon.
Ça sent bon, hein.
Ça sent tellement bon.
Oui, tu me gustas, au final.
C'est gosh, c'est si.
Oui,
beaucoup.
Bon.
Si.
Je vous dis, c'est chaud.
À Formiguignas, comme je le disais. Louis, quelles sont les caractéristiques de la cuisine capverdienne ?
Je pense qu'on peut dire que la cuisine capverdienne, c'est une cuisine populaire dans laquelle il y a beaucoup de soupes, de bouillons, de ragoûts cuisinés qui peuvent tenir assez longtemps pendant la semaine. Et ce qui nous a intéressé, c'est qu'on retrouve bien la triple influence culturelle avec des influences africaines, notamment autour du manioc, de l'igname, de la banane, beaucoup de maïs aussi, des influences portugaises autour du poisson et de la morue, qui est bien célèbre au Portugal, des influences brésiliennes avec la viande grillée et surtout des dizaines de variétés de haricots, des haricots blancs, des haricots noirs, rouges, des haricots secs et frais. On était loin d'imaginer avant d'aller au Cap-Vert qu'il y avait autant de variétés de haricots sur Terre. Et on en mange là-bas à toutes les sauces. C'est à la base de l'alimentation et notamment de la cachupa, qui est un peu l'équivalent de notre cassoulet et qui est le plat national. Et qui pour nous symbolise la convivialité et la générosité de ce pays qui fait qu'on se sent très vite chez soi dans, voilà, dans ce petit pays qui est cher à Cesaria Evora.
Oui. Alors la cachupa, on va donner la recette de la cachupa sur internet, Marine, vous allez nous la donner, on la mettra sur la page Facebook.
Absolument, c'est une recette qui est très riche, qui tient bien au corps et c'est une sacrée recette. Ouais.
Merci Marine Mandrila et Louis Martin. On met donc la recette sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac et puis on retrouve ce soir vos aventures culinaires au Cap-Vert, bien sûr, avec bien plus de détails dans un nouvel épisode de votre Very Food Trip. C'est à 19h10 sur Planète Plus. À lundi prochain.
À lundi prochain, merci.
Je dois te laisser, je t'enverrai une carte postale.
Demain à 16h, nous partirons explorer une grotte préhistorique qui a tout récemment livré de nouvelles informations sur l'homme de Néandertal, la grotte de Bruniquel. Et puis à 17h, nous partirons dans les voyages de Tintin, le célèbre reporter à la houppette. À demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, vous avez rendez-vous avec Julia Molcou pour un nouveau Mac de l'été. Bonjour Julia.
Salut Daniel.
Plaisir de vous retrouver.
Ah, moi aussi. Ce soir dans le Mac de l'été, nous aussi on part en voyage du Canada à l'Inde en passant par l'Italie. Un livre à la rencontre de femmes courageuses et vous ajouterez une larme de vermouth. Voilà le programme ce soir.
Oh mais on vous suit les yeux fermés, Julia.
J'espère.
À tout de suite.